1950.
Radio Campus 106,6.
1969-2019, cette année, Radio Campus Lille fête ses 50 ans. On évoque le passé et le présent de cette radio associative basée à Villeneuve-d'Ascq avec deux de ses membres fondateurs.
Un truc claque, claque.
Alors moi je suis Christian Vervard, je suis aux origines de la radio en 69.
Pierre Béag, j'étais aussi à l'origine et je fais toujours actuellement animateur d'une émission et entre-temps j'ai eu de multiples fonctions dans la vie associative.
Comment c'est né Radio Campus Lille ?
C'est né parce que moi j'étais passionné de Radio Pirate, ma mer du Nord. Je passais mon temps à écouter ça quand j'étais au lycée chez mes parents. J'étais aussi passionné d'électronique. Alors, en venant sur le campus, j'ai eu l'idée de vouloir faire comme les grands en mer du Nord. Et je me suis lancé dans la construction d'un émetteur. Et j'ai voulu les copier. J'ai commencé par diffuser de la musique qu'on aimait bien à l'époque. Et puis ça a pris. Disons que les voisins en résidence universitaire se sont raccrochés au projet petit à petit. Puis ça a grandi comme ça.
Il faut rappeler qu'à cette époque-là, on était d'abord étudiants ici sur le campus. Et qu'en 1969 et 70, le campus ne ressemblait pas du tout à ce qu'est le campus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait plus de 15 000 étudiants qui vivaient dans les résidences universitaires, qu'on était à 8 km de Lille et qu'il n'y avait rien. C'est entre Lille et ici. Il y avait deux lignes de bus qui se terminaient à minuit. Et puis sinon, les soirées ici étaient des soirées longues. Il y avait les activités traditionnelles, plus ou moins animées par le CROUS, plus ou moins gérées par les associations d'étudiants. Et effectivement, il y avait une vie associative assez riche parce qu'il fallait bien. C'était juste après 68 aussi, c'est pas non plus innocent. Hein. Donc il y avait aussi une vie riche dans tous les domaines. Et la radio était une animation, entre autres.
Et il faut également préciser que si on regarde le paysage radiophonique de l'époque, c'était un petit peu le désert, quoi, parce qu'on avait quelques stations périphériques comme RTL. Et il y avait le service public. Mais tout ça, c'était d'une monotonie incroyable. Et nous étions étudiants, nous aimions bien la musique qui était à la mode à l'époque. Et puis on ne trouvait pas ça sur les radios françaises à l'époque. Donc pratiquement personne n'écoutait. Par contre, Campus avait un ton nouveau. Bon, ce n'était pas nous qui l'avons inventé puisqu'on l'avait copié sur les radios anglaises. Mais c'était nouveau pour beaucoup d'étudiants ici sur le campus.
Et pour l'anecdote, il faut savoir que notre indicatif, toujours en 2019, 50 ans après, c'est toujours le même indicatif musical. Et qu'il faut le dire, on l'a pompé sur une radio pirate en mer du Nord, une radio en petite zone qui s'appelait Radio North Sea International, qui avait disparu. On ne l'a pas pompé de son vivant. Donc c'est aussi un des restes de cette époque-là. Mais l'indicatif un peu ringard qu'on entend toujours toutes les heures, là, c'est l'indicatif d'origine.
Man of Action
de Les Red Orchestra.
Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi.
Vous avez parlé de mai 68, parce que le mouvement des radios libres est né dans la suite de mai 68 aussi. Est-ce qu'il y avait des volontés politiques ? Est-ce que c'était un projet politique aussi à la base ou c'était lié à des mouvements de jeunesse plutôt culturels ? Comment vous voyez ça, vous ?
Au départ, ce n'était pas un projet politique. Bon, je ne dis pas que ça l'est toujours, ça l'est maintenant, mais au départ, c'était diffuser la musique qu'on n'entendait pas par ailleurs. Mais petit à petit, il y a des gens qui se sont greffés avec des programmes à tendance sociale, s'occuper des préoccupations de la vie de tous les jours. Puis ça a évolué comme ça, petit à petit. La grille des programmes s'est étoffée et s'est diversifiée au fil des années.
Oui, parce qu'il faut rappeler, Christian l'a dit, c'est que le paysage radiophonique de l'époque était tristouné. Et qu'après 68, il y avait aussi des volontés diverses et variées dans tous les azimuts de gens qui avaient envie de prendre la parole et de s'exprimer. L'outil radio était un outil qui était complètement verrouillé. Ça explique aussi cette volonté. Alors là, dans ces périodes-là, on a vu beaucoup d'expériences et beaucoup de gens qui voulaient s'exprimer et dire des choses dans la vie culturelle, dans la vie associative, dans la vie syndicale, dans la vie politique. Donc l'outil radio était fortement... Il y avait une forte demande.
Outil radio verrouillé, hein, il n'y avait que les radios d'État et les radios aussi périphériques. Alors comment est-ce que Radio Campus a pu émettre et sans être interdit? C'était une radio pirate au début ou comment ça se passait?
Bien, au début, on s'est lancé en pleine inconscience. On était dynamique, plein d'énergie, on se doutait de rien et on s'est lancé. On a dit, on verra bien ce qui va se passer. Et en fait, il ne s'est rien passé. On a été tolérés pendant 5 ans, sans qu'on ait vraiment d'ennui, parce qu'il y avait un flou juridique sur le monopole de la radiodiffusion. Et bon, bien sûr, on a été assez souvent convoqués par la police pendant cette période-là, mais ça n'a jamais abouti à des inculpations et on ne nous a jamais empêchés de continuer. Donc on était un pirate toléré à l'époque, jusqu'en 1974.
Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'on était les seuls en France. Il n'y avait pas d'autres expériences en France, ni en Europe, ni... Il y avait, à part les radios pirates de Mer du Nord qui émettaient en petites ondes, et qui étaient eux des vrais pirates, qui étaient elles des vrais pirates, nous on était les seuls. Alors il y avait une volonté, je crois, qu'il ne fallait pas trop qu'on parle du problème du monopole d'État. Hein, il ne fallait pas de vague. À partir du moment où Campus s'est élargi géographiquement, on a émis à Lille, on a émis dans le département du Nord, on a émis jusque Dunkerque, et puis on s'est fait connaître par des activités à côté de la radio, entre autres un célèbre festival de musique qui a été repris dans la presse sous le nom Festival Radio Campus. Là, de plus en plus, on commençait à ouvrir ce dossier du monopole des radios. Et surtout que parallèlement, à partir des années 74-75, on a vu apparaître d'autres expériences en France et aussi en Europe, ce qu'on a appelé le mouvement des radios libres.
Alors justement, comment vous avez vu ce mouvement des radios libres? Est-ce que du coup vous étiez un petit peu l'exemple à suivre ou vous avez accompagné, vous avez suivi, comment vous avez vu ce mouvement des radios libres?
En 74, il a fallu qu'on arrête puisque la police a fait déménager notre matériel et a tout confisqué. Donc on a émis de manière sporadique et puis après je ne sais pas si on a devancé ou si on a rejoint ce mouvement des radios libres, mais on s'est lancé vraiment dans la radio pirate itinérante à partir de 75-76. Et il y a eu un point culminant en 77 où là, pas mal d'associations nous ont demandé de les aider à se lancer dans la radio pirate.
Là aussi, il faut rappeler qu'actuellement, techniquement, il n'y a pas besoin d'être compétent. Un émetteur, ça s'achète. À cette époque-là, c'était introuvable. C'est parce qu'ici, Campus était aussi un cas particulier. Il y avait les compétences techniques pour fabriquer, au départ de Radio Campus, tout le matériel, c'était du matériel fabrication maison. Ce qui était aussi, ce qui explique aussi qu'on a vu arriver après des gens qui sont venus nous voir en disant comment on peut faire? On a envie de démarrer une radio, comment on peut faire? Et à ce moment-là, c'est dans le cadre de ce mouvement des radios libres, là, c'était du matériel de Campus qui tournait. Alors c'est dans les conditions que tu imagines, il fallait des stringballets, il fallait des bras, il fallait des gens, puis il fallait échapper au Lascar qui nous poursuivait, là, TDF, je ne sais pas si c'était déjà TDF ou encore là, ou RTF, enfin c'était le même, parce que là c'était devenu un combat au sens, il n'y avait pas mort d'homme, il ne faut pas non plus fantasmer, mais là il fallait se battre pour pouvoir émettre, surtout que parallèlement on a commencé à voir arriver ce qu'on appelle le brouillage, qui était totalement illégal, mais qu'on a vécu, je dis nous, l'ensemble des radios libres, et c'était pas facile. Néanmoins, Campus... Et ce qui explique la présence de Campus dans toutes ces expériences, c'est qu'il fallait, trouver le matériel. C'était une des contraintes de l'époque.
Oui, on fournissait le matériel et les techniciens en général. Et les associations en question nous fournissaient le local, la situation et les bras.
Un des moments forts de cette époque-là, ça a été bien sûr juste avant 1980, les radios, là, les radios sociales, les radios de lutte, qui, ici dans le Nord, c'était bien sûr Radio Quinquin avec la radio de la CGT, mais il y avait aussi à Longwy, là, la radio de la CFDT qui s'appelait la radio du Crassier, il y avait Lorraine Cœur d'Acier. Donc tout ça c'était maintenant devenu un vrai problème national et même européen, parce qu'en Italie, ça a démarré, en Belgique, ça a démarré, en Angleterre, ça a démarré, il y avait la même situation. De gens, il fallait libérer la parole, il fallait se réapproprier l'outil radiophonique qui est toujours d'ailleurs un outil de communication fort important.
Nous terminons avec la traditionnelle plage météo. Le temps s'éclaircit peu à peu pour Radio Campus et les sombres nuages de la censure gouvernementale s'estompent. Cependant, une forte dépression commerciale est à craindre et des chutes de hit-parades fréquentes et tiédasses nous menacent sur l'ensemble du continent. Couvrez-vous soigneusement les oreilles. En bord de mer, il faudra vous méfier des plages culturelles très polluées par la prolifération de la médiocrité radiophonique. Quoi qu'il en soit, protégez vos tympans et écoutez Radio Campus. La météo nationale annonce pour cette radio associative des années de soleil et de bonne humeur, qu'on se le dise. A bientôt sur Radio Campus, la vraie radio libre depuis 1969, mère d'Afrique et mort au con. Radio Campus, la radio qui n'est pas à vendre.
Arrive 1981, libération de la FM. Comment vous avez vécu, vous, cette période aussi? Il a fallu trouver une autre organisation, et là, une organisation dans les clous, une organisation légale.
Oui, ça n'a pas été simple tout de suite, parce que, bien sûr, il y a eu une libéralisation en 81, mais nous avons continué à être brouillés pendant très longtemps. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça a été une mesure de représailles, vu notre activité, une petite revanche, parce qu'on les a quand même bien embêtés, les gens qui nous brouillaient. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déclaré en association, et on a fait comme tout le monde. On s'est lancé, on a demandé un local, et puis on s'est installé. L'université, qui a toujours vu notre expérience d'un très bon œil, nous a donné un local sans trop de problèmes.
On avait le statut associatif. Dans le cadre du nouveau schéma du paysage audiovisuel, il y avait ce qu'on appelait les radios locales privées qui étaient prévues jusqu'en 1983, je crois, ou 84. C'était les RLP, hein, les radios locales privées, avec un statut d'association, une protection vraiment, ce qui est devenu après la catégorie A. Mais par contre, effectivement, on a vu très vite arriver le problème du financement, et avec la pression, des gros groupes de pression, ce qui existe maintenant, qui se sont accaparés la bande FM en tant qu'outil, là cette fois-ci financier, et évidemment l'introduction de la publicité, l'autorisation de la publicité qui a jusqu'en 83 était interdit. Ben là, ça a complètement chamboulé, parce que là le rapport de force n'était plus du tout la même chose. Le monopole d'État qui existait avant était transformé par un monopole de l'argent, pour schématiser, pour simplifier.
À Campus, l'argent et la question de la pub, ça, il n'en a jamais été question, ou il y a un moment où il y a des questions qui se sont posées
Moi, je peux dire qu'effectivement, on est resté toujours à Campus, resté fidèle, comme beaucoup de radios Campus. D'ailleurs, on parlera peut-être du réseau des radios Campus et des radios associatives. La loi autorise une partie de financement, dans un certain pourcentage. Mais Campus, on est toujours resté vraiment très, très strict et très rigide, on peut dire, à part quelques petites exceptions pour les messages d'intérêt, les MIG, les messages d'intérêt général, pour des institutions de type public. Il n'a jamais été question de faire de la publicité commerciale sur ce qui est devenu. On est resté. Ça fait toujours partie des principes fondamentaux de Radio Campus.
Oui, surtout que nous, on considère que la pub, c'est un frein à notre liberté d'expression. Donc on ne veut pas se lancer là-dedans. On veut rester libre, tout à fait.
Cette liberté, c'est peut-être la question que j'allais nous poser, c'est qu'effectivement, le financement, il faut quand même le trouver. Et donc, les radios associatives sont financées en partie, en grosse partie, par ce qu'on appelle un fonds de soutien, le fonds de soutien de l'expression radiophonique, qui est financé par une taxe parafiscale, où maintenant ça a changé, c'est devenu... c'est la loi qui... Enfin, ça rentre dans le budget général. Mais effectivement, il y a l'aspect subvention qui est fort importante. Et ça a toujours été important, et c'est de plus en plus important, parce que là, on est dépendant. On peut être dépendant des subventions, et dans une période d'austérité financière et d'argent public qu'il faut absolument restreindre, on a connu des expériences de gens qui n'ont pas résisté. Actuellement, on tient encore le coup, mais c'est un problème qu'il faut se poser. Le financement d'un outil de communication comme une radio, si on veut rester associatif et indépendant, eh bien, il faut se financer.
Alors dans la grille de Campus, il y a d'abord des choses qu'on ne veut pas, c'est la publicité commerciale, les auditeurs de Campus le savent, et ensuite tout ce qui concerne le décervelage, à savoir les jeux débiles, les top 50, les hit parades et les dédicaces, tout ceci donc n'est pas sur Campus. Ce qu'on recherche sur la grille de Campus, C'est un éclectisme et un pluralisme de bon aloi, surtout dans les genres musicaux. On retrouve dans la grille de campus tous les genres de musique, de la chanson française au jazz, en passant par le punk et le classique, et sans oublier bien sûr les musiques du monde entier.
Alors la radio aujourd'hui, Radio Campus Lille, aujourd'hui ça ressemble à quoi ? Qui y participe ? Comment vous voyez les choses, vous ?
Bon, on a à peu près 200 animateurs avec une grille qui est très fournie, 7 jours sur 7. Il y a des émissions de tout style, des émissions musicales, des magazines, des émissions culturelles. Il y a des émissions pour l'université également. Il y a une partie actualité sociale également. Donc on n'a pas de problème pour trouver des candidats aux émissions. Vu la proximité de la grande ville, vu la proximité du campus, ça se passe quand même relativement bien.
Et effectivement, campus a réussi, il y a une notoriété, il y a une image campus. Donc les gens qui viennent, ceux qui ont envie de s'exprimer à Radio Campus, en général, ils ne viennent pas en terrain inconnu. D'ailleurs, la question qu'on passe souvent, celui ou celle qui vient nous poser des projets d'émission, on leur dit « comment ça se fait que tu viens à campus ?» On voit tout de suite si on connaît la maison ou si c'est quelqu'un qui vient faire du DJ ou du sound. Et en général, on se rend compte, et ça n'a pas changé, ça se maintient et même ça évolue. Il y a un besoin, donc il y a beaucoup de projets. On n'est pas en manque de projets d'émissions. Et là, comme le disait Christian, dans tous les domaines, à la fois des passionnés de musique particulière, des passionnés de littérature. On a des motards depuis des années qui font un magazine moto. On a de la musique du monde entier avec des étudiants du monde entier et des communautés au bon sens du terme. Donc il y a de quoi alimenter une grille de 24 heures sur 24 pour une radio associative.
Avec une spécificité aussi, il y a pas mal d'émissions de chansons. C'est quand même une radio qui est très pointue sur ce qui est chanson française d'hier et d'aujourd'hui.
Ça a toujours été. On n'a pas attendu la loi qui impose 40% de quota de chansons françaises ou francophones. Dans la grille, ça a toujours été une volonté d'accueillir à la fois la chanson au sens très large, parce que la chanson, ça va du rap jusqu'à la chanson médiévale. Enfin, la chanson, c'est quelque chose, un domaine très... On n'a pas donc attendu, je disais, ce qui a été imposé par la loi. Au contraire, et puis à la fois les productions et les créations locales, mais aussi les créations nationales et même des gens qui viennent de très loin. La chanson, c'est vraiment un domaine on ne manque pas de sujets. On a de quoi remplir les grilles et les magazines.
J'emmerde le travail, j'emmerde la patrie, j'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les droits paternels qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir aux autres. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et vous écoutez La Voix sans maître comme tous les vendredis soirs de 20h à 21h.
En 50 ans, le rapport des gens à la radio, des auditeurs de la population à la radio a quand même largement changé. Il y a 50 ans, on peut dire que peut-être plus de gens écoutaient la radio qu'aujourd'hui. Ou aujourd'hui, on l'écoute différemment ? Comment vous voyez les choses ?
On l'écoute différemment. On passe plus de temps sur son smartphone, d'où l'importance d'avoir une transmission sur le web également pour les radios. Mais il y a un endroit où on écoutera toujours la radio classique, c'est dans son auto, en allant bosser le matin, quoi. Donc la radio hertzienne n'est pas morte. En plus, avec le développement du DAB+, on a d'autres possibilités qui nous sont offertes. Et je pense que ça va continuer comme ça. Peut-être qu'il y aura une complémentarité avec les transmissions web, mais tout ça, c'est en pleine mutation maintenant. Et puis ça va devoir évoluer dans ce sens-là.
Je crois aussi justement que l'auditeur, c'est quelque chose qui nous a toujours... On a toujours été soucieux à Campus de l'auditeur. Non pas d'un point de vue mercantile ou audimat, Par contre, c'est aussi une caractéristique, je crois, de Radio Campus et des radios associatives. C'est les retours que l'on a par la demande, justement. Comme on privilégie et on diffuse gracieusement, comme beaucoup de radios associatives, les messages culturels, associatifs, étudiants, ça fait beaucoup. Il y a une demande, là aussi, on s'en compte que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il a fallu aussi faire une organisation administrative et secrétariat. C'est parce que le téléphone, le courrier, les mails, tout ça, c'est aider. Il y a une demande forte d'utiliser l'outil radio pour faire passer justement des informations qui évidemment ne passent pas du tout ou très peu dans les autres gros médias. On n'imagine pas passer à une information d'un club sportif ou d'une association d'étudiantes de Lille sur TF1 ou sur Europe 1 ou sur c'est. Donc là aussi, il y a des endroits tels que les radios associatives qui sont encore ou qui doivent rester ouvertes justement à la vie, à cette vie-là, qui par ailleurs n'est pas possible, sauf par le fric.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien,
moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Alors vous, votre rapport à Radio Campus, entre vos débuts sur la radio, donc là vous êtes carrément le créateur de cette radio, et jusqu'à aujourd'hui, vous faites toujours des émissions, et puis quel rapport vous avez avec cette radio aujourd'hui?
Non, moi je ne fais pas d'émissions, j'ai été président de la radio pendant 35 ans, après j'ai cédé la place parce que, bon, disons que le côté bénévole, associatif, à la longue, c'est un petit peu usant. Hein, donc, mais je suis toujours resté au conseil d'administration. Actuellement, je suis vice-président, mais plus président. Et moi, je ne fais pas d'émission. Je suis plutôt intéressé par le côté gestion et puis le côté technique également. Bon, j'ai accompagné l'évolution parce qu'au départ, c'est moi qui construisais les émetteurs. J'ai accompagné l'évolution du matériel. On est passé des émetteurs bricolés avec des pièces récupérées dans les vieilles télés, à des émetteurs achetés dans le commerce, à des installations de plus en plus propres. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner tout ça, l'apparition du site web également. Bon, et maintenant, disons que je compte lever le pied à l'occasion des 50 ans. Je pense qu'un demi-siècle, c'est pas mal. Et je pensais prendre ma retraite dans peu de temps.
Bah, moi, je dirais que la motivation, elle est toujours la même. Hein. Les besoins sont toujours les mêmes. Donc, il y a la passion qui fait que, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours animé une émission de chansons, donc je reste fidèle. J'ai toujours participé à la vie associative, bien que n'étant plus non plus dans les conseils d'administration. Et puis, il faut savoir que dans la vie associative, comme dans la vie ailleurs, j'allais dire place aux jeunes, au sens philosophique du terme et même au sens associatif du terme. Là, surtout que c'est fondamental. Que si on veut que l'outil perdure, il faut qu'il y ait du dynamisme. Par contre, c'est à nous à transmettre. C'est à la fois cette passion et puis cet outil qui est magnifique, qui est la radio. Et pour l'instant, ça se passe bien à Campus. Ça ne se passe pas toujours forcément bien dans d'autres domaines de la vie associative et de la vie culturelle. Hein. Il y a un phénomène sociologique. Hein. Les motivations ne sont pas forcément les mêmes. Et dans le monde étudiant, on a vu cette évolution-là aussi. Il n'y a pas forcément une envie militante ou combative pour se battre comme nous, on s'est battu à cette époque-là. Cela étant, chaque époque et chaque communauté a une façon de voir, et c'est l'évolution. Donc à nous aussi de savoir transmettre, de savoir expliquer. Et les 50 ans sont l'occasion aussi de rappeler un peu ce que c'est que cette radio. Quand on arrive à Campus, combien de fois on le dit aux jeunes, on voit un studio magnifique, on voit des conditions de travail magnifiques. Il faut se souvenir que ça n'a pas toujours été comme ça. Et que c'est le résultat de 50 ans, enfin, ou de plusieurs dizaines d'années de boulot. Il y a des gens derrière et une mobilisation. Et ça, c'est toujours utile. Parce que on peut être vite mis en danger.
Bon,
On écoutait un entretien avec Pierre Béhag et Christian Vervard, deux des membres fondateurs de Radio Campus Lille, la doyenne des radios associatives de France, carrément. Radio Campus Lille fête cette année ses 50 ans et tout un programme d'animation est prévu tout au long de l'année. 50 ans, 50 événements, 50 lieux. Et puis si vous ne connaissez pas cette radio, allez faire un tour sur le 106,6 de la bande FM ou sur campuslille.com pour découvrir la richesse des émissions proposées.